Je voulais parler seulement de l'Évangile, mais je dis quand même un petit mot de ce que dit saint Paul aux Éphésiens, quand il s'adresse aux Éphésiens. Et d'une façon assez curieuse, parce que ça se trouve comme ça, c'est un peu par hasard, saint Paul confirme ce qu'il nous a dit dimanche dernier dans l'Épître aux Galates. On nous enfonce le clou, et ça c'est très très bien. Saint Paul dit, nous sommes sauvés gratuitement par la grâce de Dieu. C'est uniquement en raison de l'amour que Dieu a pour nous. Il dit, c'est le don de Dieu. C'est pas grâce à nos œuvres, c'est pas grâce à tout ce qu'on peut éventuellement faire de bien. Et il précise une chose, c'est très très important. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, afin que personne ne se glorifie. Si on accomplit beaucoup de bonnes œuvres et on peut se dire qu'on est quelqu'un de très bien, ça se rencontre chez les chrétiens. Peut-être même en nous-mêmes, que parfois nous pensons qu'on est pas si mal que ça, qu'on est bien. Et on peut aller plus loin. Si on accomplit plein de bonnes œuvres, on peut estimer qu'on mérite quelque chose. Ça, c'est une tragédie. C'est une erreur absolue. L'Église orthodoxe condamne totalement la doctrine des mérites. Depuis 2000 ans, ça ne nous a jamais effleuré. C'est une hérésie spirituelle, la doctrine des mérites. On doit tout à Dieu. Il nous a tout donné au départ, et il nous sauve gratuitement. C'est important. Tout est un don de Dieu. Premièrement, tout est un don de Dieu. Et deuxièmement, la relation que Dieu veut que nous ayons avec lui, c'est l'amour. Mais en amour, on donne et on se donne. Mais ce n'est pas forcé qu'on soit reçu. Si on n'est pas reçu, on va mourir. On donne, on se donne. Mais en amour, on n'exige rien. Quand on commence à exiger, ce n'est plus l'amour. Et Dieu veut que nous ayons avec lui ce type de relation. On ne va pas commencer à se battre avec lui et à dire, dis donc, j'ai fait ci, j'ai droit à ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas le mode de relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. L'amour est libre et gratuit. On n'exige pas. Voilà, je voulais rajouter cela par rapport à l'épître des dimanches derniers. Et maintenant, l'évangile. Possédé de Gerasa, qu'on appelle aussi Gadara. Il est chez les trois évangiles, dans les trois évangiles synoptiques. Alors, peut-être vous pouvez être surpris qu'on le dise deux fois dans l'année. On l'a déjà lu chez saint Matthieu, le quatrième dimanche, je ne sais pas encore. Mais ça, c'est lié au style du lectionnaire oriental. On lit d'abord complètement saint Matthieu, puis ensuite on lit plus ou moins complètement saint Luc. Donc, il arrive souvent qu'on lise deux fois les mêmes événements, chez deux évangélistes différents. Tandis que dans les lectionnaires occidentaux, on choisit les thèmes chez les quatre évangélistes. C'est une autre philosophie, c'est deux façons de faire. Alors, effectivement, on a déjà entendu chez saint Matthieu, mais là, c'est chez saint Luc. Il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut insister. On est tout à fait au début de la mission du Christ en Judée. Donc, il a fait son grand discours inaugural, il a déjà parcouru les villages, il a parlé, il a guéri beaucoup de malades, il a fait des exorcismes. Il va y avoir deux événements miraculeux successifs, qui sont exactement côte à côte. La tempête apaisée et la délivrance du possédé de Gerasa. Deux événements conjoints. Le Christ dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac, une terrible tempête. Et ils ont peur. Ils disent, on va mourir. Et le Christ, il dort. Il dit, Seigneur, au secours, on va mourir. Il dit, j'en ai peu de foi. Il commande à la mer, il parle, il dit, tais-toi, mer. Il montre à ses disciples qu'il a le pouvoir sur le cosmos et sur les forces cosmiques. Et après, quand il va délivrer le possédé de Gadara, il montre à ses disciples qu'il a le pouvoir sur les démons. C'est très important. Tout cela, il le fait pour le montrer à ses disciples. Il voulait leur montrer qu'il avait tout pouvoir sur le cosmos et les démons. Et pourquoi est-ce que c'est très important? C'est parce que le Christ ne se distinguait en rien des autres hommes. Il était un juif comme les autres. Et il était un rabbi comme les autres. Vous savez, ce n'était pas un style grand personnage, gourou, pas du tout. Rien ne permettait certainement de distinguer, ni dans son comportement, ni dans son vêtement. Il était normal. Mais il fallait absolument que les disciples crussent qu'en lui, il y avait la toute-puissance divine. Et donc, il faut qu'il leur montre. Il leur montre qu'il a tout pouvoir sur le cosmos et tout pouvoir sur le démon. Très important. Sinon, il n'aurait jamais pu parcourir le monde en disant « Christ est ressuscité ». Il fallait qu'ils soient convaincus. C'est une pédagogie du Seigneur pour eux. Vous avez vu, les gens de Gadara et n'ont rien compris. C'est pour les disciples qu'il fait tout ceci. Premièrement. Ensuite, on va dire un petit mot du possédé, de l'exorcisme du Christ. On est en terre païenne. C'est la Décapole, c'est de l'autre côté du lac. Hein, c'est ce qui est actuellement le nord de la Jordanie. C'est une terre païenne. Les gens, ils adorent les idoles. Les idoles sont des démons. Le Christ a toujours dit, toute la Bible nous le dit, ce sont des démons qui se font adorer comme s'ils étaient dieux, des dieux. C'est des démons. On n'est pas possédé par hasard. Alors bien sûr, ça peut sembler terrible quand on est cela. Et bien sûr, il y a des cas de possession, toujours, depuis 2000 ans. Mais on n'est pas possédé par hasard. Ça n'arrive pas comme ça, comme ça, sur quelqu'un. On est possédé quand on a un commerce avec les démons. Vraiment, pas maintenant. Il faut le savoir. Quand il y a eu des artifices magiques faits contre quelqu'un, mais il faut d'abord qu'il y ait commerce. Une fois qu'on a fait commerce avec lui, il ne vous lâche plus. C'est ça la possession. Mais la possession existe, elle a toujours existé. Mais dans ces terres païennes, c'est bien pire. Parce qu'on n'a aucun moyen de lutter. On a seulement la magie contre la magie. C'est toujours de la magie. C'est toujours de la force démoniaque contre la force démoniaque. L'homme possédé. Alors, chez saint Matthieu, ils sont deux. Mais chez Marc et Luc, il y a un possédé. Il est horrible à voir et à entendre. Il écume, il crie jour et nuit, il fait peur aux gens, il est tout nu, il vit dans les tombeaux, c'est avec les morts. Il s'automutile en arrachant des morceaux de peau. Et il a une force gigantesque, on lui met des chaînes, il les casse. C'est la force angélique, gigantesque. Une bombe atomique, c'est rien à côté de la force angélique. Le démon et les démons prennent un très très grand plaisir à ridiculiser l'homme et à l'humilier. Ils prennent un grand plaisir à le défigurer. Ça, c'est leur grand plaisir, c'est leur grande joie. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Ils haïssent cela. Ils disent pourquoi pas nous? Les démons sont jaloux de l'homme. Ils prennent un immense plaisir, ça les rassasie, ça les nourrit. Dans les dires, de défigurer, d'humilier l'homme. Et quand ils peuvent, ils le tuent. Mais s'ils le tuent, ils ne peuvent plus s'amuser avec. C'est comme un joint. Il faut se souvenir toujours de cela. Parce que lorsque vous voyez des choses de ce type, de enlaidissement, défiguration, sachez que derrière, il y a toujours quelque chose de démoniaque. Dieu a créé l'homme beau, il veut qu'il parvienne à la beauté absolue. Tout ce qui enlaidit, humilie, défigure l'homme, c'est toujours d'inspiration démoniaque, toujours. C'est un des critères de la vie spirituelle. Et cette laideur de cet homme, c'est l'image même de ce que sont les démons. C'est extrêmement important de s'en souvenir. C'est l'image même de ce qu'ils sont spirituellement et intérieurement. Les méchants destructeurs. Cet homme que nous voyons là, c'est l'image de ce qu'ils sont. C'est le fruit. Toute séparation d'avec Dieu, qui est la source de tout bien, entraîne inévitablement une descente et une régression vers le contraire de la réalité divine. Du beau, il y aura la laideur. Du bon, il y aura la méchanceté. Du juste, on va trouver l'injustice. Dieu crée, on va trouver la destruction. Il faut savoir, le Christ il nous a bien avertis. Il dit, qui n'est pas avec moi contre moi, on n'est pas neutre. Il n'y a pas de neutralité. Soit je vais communier à Dieu, qui est la source de l'être, du bien et du beau, et je vais moi-même avancer dans l'être et embellir. Soit je vais entrer en conflit avec lui, je vais lui faire la guerre, et j'aurai l'inverse. Mais ça vaut pour les hommes aussi. Alors c'est plus fort chez les démons parce qu'ils ont une plus grande puissance. Et parce qu'ils sont des esprits plus proches de Dieu. Mais ça vaut aussi pour nous. Il faut que nous en souvenions. La révolte contre Dieu, la désobéissance engendre la mort. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Et le Seigneur est sur le point de délivrer l'homme. Et le démon se rend compte qu'il va le faire. Il dit, arrêtez pas ça. Viens pas nous persécuter. Alors ça peut nous paraître bizarre. Les démons ne peuvent pas faire autrement que de reconnaître toute puissance divine en Jésus. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'ils sont des esprits et qu'ils voient l'esprit divin en Jésus. Mais ils disent non. Vous avez vu? Fils de Dieu, il appelle. Mais ils disent non, il n'est pas question que tu t'incarnes. On est contre ça. Il ne change pas. Il nous appelle Jésus, fils de Dieu, mais il demeure libre. Il rejette toujours l'incarnation divine. Il ne change pas, il ne se convertit pas. Mais il pourrait changer. Mais il ne change pas, il ne se convertit pas. Pourquoi est-ce qu'il dit au Christ ne nous renvoie pas dans la vie? Ça peut paraître assez bizarre. Alors, il faut en dire un petit mot. Les démons ne se tenant pas dans l'obéissance à Dieu, n'ont pas de lieu, ils sont errants. Est-ce que vous vous souvenez dans le livre de Job, tout au début, il y a Satan qui se présente avec les autres anges de Dieu devant Dieu. Et le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? Le Seigneur, il dit, le Père Céleste, il y a Satan, d'où viens-tu? Parce qu'il ne se tient pas dans la voie de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, d'où viens-tu? Et Satan dit, je suis allé promener sur la terre. Les démons sont errants, n'ont pas de lieu, parce qu'ils ne se tiennent pas à la place que Dieu voulait pour eux. Ils ne sont pas obéissants à Dieu. Donc ils errent. Ils essayent de polluer, détruire tout ce qu'ils peuvent. Et lorsque les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer dans la Bible, cela revient à dire, suspends ton jugement. Ce n'est pas encore le temps du jugement dernier. Ne nous contrains pas à demeurer dans notre propre enfer. C'est cela que ça suffit. C'est une phrase assez mystérieuse, mais ça suffit, on n'est pas encore à la fin des temps. Mais il ne change pas quand même. Et vous avez remarqué que le Seigneur, il a compassion. Ça, c'est une chose très étonnante de cet évangile. Il a compassion même des démons, qu'il n'est pas obligé d'accepter. Et il va accepter qu'ils aillent dans le troupeau de porcs. C'est-à-dire qu'au fond, il demeure attaché aux choses du cosmos. Mais le Seigneur a compassion. Mais je pense qu'il le fait pour une raison pédagogique. Les porcs sont laids et sales et sentent mauvais. C'est un symbole, bien sûr. C'est pas que le porc soit mauvais en lui-même, c'est idiot. Et c'est le symbole qu'il faut voir. Et je pense que c'est pour montrer aux hommes les fruits de la révolte contre Dieu. Vous voyez ? Au fond, les démons ressemblent aux porcs. Les porcs sont une image des démons. Et c'est une pédagogie du Christ. Et deuxième point. Donc d'abord, il demande et le Christ permet les envoie dans le troupeau de porcs. Vous avez vu que les démons, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai dit les autres années, ils sont très nombreux. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui pose la question, quel est ton nom? Parce que le nom est le signe de la personne. Il ne dit jamais non, non, on ne demande qui, jamais son nom. Il dit, on est légion, on est très nombreux. Le Seigneur, il pose la question pour que les apôtres entendent, pour qu'ils apprennent à connaître le monde enférique. Un démon ne dit jamais son nom, parce qu'un démon ment. Et quand on ne dit pas son nom, on peut agir en douce. Ils agissent toujours en douce, toujours dans le secret. Pour qu'il y ait la peur chez les gens. Qu'est-ce qu'ils font avec cet homme-là possédé? Pour la peur chez les gens. Tout le monde a peur. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le Seigneur accepte par compassion et aussi par pédagogie. Et une fois qu'ils sont dans les ports, ils les tuent.
Une fois que les ports se jettent dans la mer, ils les tuent.
C'est aussi une pédagogie du Christ. Que toute révolte contre Dieu conduit à la mort. Donc il va montrer qu'il y a la laideur des ports et la mort. Ils sont noyés dans l'eau. Et pour conclure, parce que la conclusion, elle est tout à fait douloureuse pour nous, les êtres humains, c'est que les gens du lieu, les gens de la décapole, les gens de Gerasa, ils prient Jésus de partir. Ça veut dire qu'ils le chassent. Pas. Deux fois l'évangéliste nous dit, pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas du tout conscience qu'ils soient le Messie. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la loi et les prophètes. Ce sont des païens. Ils n'ont pas la révélation. Et ils voient Jésus, un magicien, plus fort que les autres. Ils ont peur. Ils disent qu'il est trop fort, ce gars-là. Pas. Ils n'ont pas un moment, il y a un mot de remerciement. Pas un mot, alors qu'il vient de guérir cet homme et de le délivrer de la peur. Pas un mot de gratitude. Honte à nous, les êtres humains. Pas un mot de gratitude pour nous aider. Pas. Mais... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce miracle était accompli, en fait, pour les apôtres. Mais il y a quand même un mais. Il y a quand même un fruit, c'est le possédé libéré. Le possédé dit au Seigneur, je veux venir avec toi. C'est normal. Il vient d'être sauvé par le Christ. Le Christ lui dit, non, reste où tu es. Il dit, témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Vous avez vu? Il a semé quand même dans cette terre païenne un élément de christianisme. Mais le possédé libéré, portera beaucoup de fruits. Cette terre deviendra chrétienne. Le décapole deviendra entièrement chrétien jusqu'à l'invasion arabe, jusqu'au 7e siècle. Mais il restera encore chrétien, il y a encore des chrétiens pour plus d'années. Vous voyez, cet événement, ce miracle, c'est toute une pédagogie pour les apôtres, mais c'est une pédagogie aussi pour nous. Et à Dieu sur la gloire pour les siècles.
Bonjour.